C'est ici sérieux que ça la conséquence est ici grave. Je me rappelle de ça.
Le
a été sauvé.
Était caché au Vatican. Il était caché au Vatican par Pidou, qui a sauvé ses juifs, et il s'est converti. Il est bibliothécaire du Vatican. Il a déclaré qu'il s'est converti.
Par reconnaissance.
Frappé, oui, voilà. Par reconnaissance. Alors, un juif, un rabbin, se convertit. Un rabbin qui est censé avoir une certaine connaissance de la théologie, de la judaïsme, et qui, lorsqu'il se convertit, devrait connaître la théologie chrétienne, qu'elle existe, et qui annonce publiquement, se convertit par reconnaissance pour remercier le pape, je peux dire peut-être la façon qu'il avait d'expliquer aux juifs qu'en fait, c'était pas une conversion.
C'est ça.
Ouais. Ah, ouais, c'est normal. Oui. Attendez, je crois que monsieur avait demandé la parole.
On a dit hier qu'il serait peut-être dangereux de faire une diaspora française. Une française de la réussir. C'est vous qui avez dit ça. Et en même temps, il y a un problème qui se pose qui est celui de récupérer, entre guillemets, les juifs qui veulent aller vers Israël, vers leur judaïsme, et puis je pense après vers Israël. Et il faut des structures. Mais est-ce que, et le problème c'est que, justement, est-ce que si on fait ces structures, ce ne sont pas justement les structures d'une diaspora judéo-française ? Alors quelle serait une solution ? Parce que c'est un cercle vicieux.
Je pense que c'est un problème surtout d'identification beaucoup plus que d'un problème de situation géographique. Si cette diaspora française se constitue comme diaspora d'Israël, l'essentiel est préservé. Mais si elle se constitue comme reconduction de l'ancienne diaspora d'avant Israël, solidaire d'Israël, ça fait déjà deux peuples. Vous comprenez ? C'est ça la gravité. Or, ce que vous avez indiqué est important. Les institutions sécrètent une idéologie d'affrontement. Je veux dire, les institutions qui sont nécessaires, une fois qu'elles s'installent, sécrètent leur propre idéologie de diaspora en soi, et elle transcende les dirigeants eux-mêmes qui, eux, se préparent à prendre leur retraite en Israël pour l'avenir de leur résurrection. C'est autre chose. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais entre-temps, l'institution a sécrété une fausse position, à mon sens fausse. Et alors, c'est un problème très difficile. Mais je crois que la formule que je vous proposerai sur cette question, que j'ai assez décantée, c'est celle-là. À condition que ce soit la diaspora d'Israël, lucidement, tout est préservé. Le problème de l'antisémitisme, est-ce qu'on aura le temps de... C'est autre chose. Mais au point de vue de l'identification, tout est préservé. C'est pourquoi on fait parfois avoir des positions qui n'est pas exactement... je ne suis pas un militant de la liquidation de la diaspora, c'est pas vrai. D'autant plus que j'ai passé 30 ans de ma vie à aider cette diaspora à se sortir du néant. Mais de son identification. Et je crois que le facteur le plus grave... Bon, là, c'est notre controverse. Mais enfin, je dis ça un peu trop rapidement, peut-être. Le facteur le plus grave se trouve dans le milieu religieux, beaucoup plus que dans le milieu assimilationniste, actuellement. C'est-à-dire la constitution d'une diaspora comme telle, solidaire ou pas d'Israël, mais pour des motifs religieux. C'est là que me paraît le vrai problème. Le problème du non-sionisme par commodité, du non-sionisme par... c'est un petit problème. C'est ça que je crains. Vous voyez, il y avait là deux dimensions du problème assez importantes. C'est vrai qu'il y a eu, il y a 2000 ans, une catastrophe avec le christianisme. Quelques centaines d'années après, la même catastrophe avec l'islam. J'essaie de m'expliquer rapidement. L'intention des fondateurs était probablement, ou des maîtres des fondateurs qui les ont laissés faire, était probablement de fonder une diaspora d'Israël. Seulement, ça a capoté dans une rivalité d'Israël. Et je parle tant de la chrétienté que de l'islam. Pour l'islam, c'est très clair. Mahomet voulait être reconnu par le Messie des Juifs, comme le Messie des Juifs, les Juifs ne l'ont pas reconnu, il est devenu anti-juif. Le cas de Luther éclaire assez cela sur ce point. Et en ce qui concerne le christianisme, c'est surtout le triomphe du polynisme qui a été la catastrophe. Et je voudrais l'expliquer très rapidement. Les théologiens pendant des siècles, beaucoup étudié cette question, ont parlé d'une rivalité de deux Israël. Yabandon, c'était en réalité une rivalité de deux diasporas d'Israël différentes. La juive, qui restait fidèle à son origine hébraïque et à la Torah, et la chrétienne, qui a rompu et qui a adopté comme véhicule culturel le véhicule culturel gréco-romain. Et donc, c'est une diaspora d'Israël qui a mal tourné, qui s'est érigée en rivale d'Israël, avec comme capitale Rome. Et aujourd'hui, ce que dit Colette, c'est que certains milieux, hein, en tout cas de la chrétienté, commencent à entrevoir que ça cherche par là. Et ils se ressourcent dans la diaspora juive pour savoir comment est la diaspora d'Israël. Mais je comprends très bien cela. Et je l'ai souhaité moi-même, il y a déjà des années. Seulement, je peux dire aujourd'hui que ma position, c'est de croire que c'est une utopie. Ils ne sont pas sincères. Je dis les choses gravement, mais parce que c'est ma conviction. Je vous dis ça sous forme de conviction. Je suis persuadé qu'on se fait avoir. Et pourquoi? Parce qu'il manque ces deux aveux, trois aveux. Il manque d'abord l'aveu de culpabilité pour l'antisémitisme nazi. Il manque cet aveu de culpabilité, je suis désolé.
La déclaration des évêques français, il y a 104 ans, et tous les textes qui paraissent...
Tu veux qu'une fois on en fasse l'exégèse?
Pas du tout.
Qu'on en fasse l'exégèse. Et je
me dis... Mais tu es plutôt étranger, ça a eu pris...
Non, ne mélangez pas les choses.
Pas du tout.
Qu'on en fasse l'exégèse.
La France est à la pointe de ça.
Oui.
De cet aveu.
Je suis persuadé de la bonne foi française de ces évêques. Je ne suis pas du tout persuadé de la bonne foi chrétienne dans ce problème. Et je suis obligé de dire des choses de façon trop carrée, mais je vous dis ça sous forme de conviction, c'est tout. C'est une expérience de 40 ans dans ce problème. Et je retrouve avec aisance et soulagement le Shulchan Aruch de ces histoires. La Gemara dit clairement, halakha, Esav sonnet Yaakov. Ma conviction est ceci, qu'un Esav qui fait tshuva devient juif. Tant qu'il ne devient pas juif, il y a quelque chose de pas clair. Bon, c'est pas ce qu'on leur demande, mais en fait, il faut enlever le masque. Non, il faut enlever le masque. Il ne peut pas y avoir deux Israël. Il ne peut pas y avoir deux Israël. Alors, c'est clair, tant qu'il n'y a pas l'aveu, bon, je dis, on attend trois aveux. Premièrement, l'aveu de... il ne suffit pas d'un mea culpa rituel, religieux, confessionnel, d'un mea culpa dans un non, plus le langage, c'est un rite, d'un al-het. Okay? Il ne suffit pas, il faut en tirer les conséquences. L'événement a été trop grave pour qu'on puisse obtenir le pardon sans demander pardon. Cette demande de pardon n'a pas été faite et les conséquences n'ont pas été tirées dans l'histoire concrète et réelle. Une. Deuxièmement, avouer qu'on s'est trompé sur l'essentiel. On ne peut pas se tromper sur l'essentiel et rester infaillible. La manière dont il nous a fait passer muscade l'histoire du déicide, ça on ne peut pas l'avaler comme ça. Alors si on s'est trompé sur l'essentiel, il faut l'avouer. On ne peut pas à la fois s'être trompé sur l'essentiel et rester infaillible, ce n'est pas possible. Et puis troisièmement, quoi par rapport à l'État d'Israël? Je vais vous dire dans quel sens. Un des arguments, deux arguments principaux du Vatican en particulier, et c'est plus hypocrite encore chez les protestants dans notre histoire, c'est que premièrement, il y a beaucoup de juifs qui ne reconnaissent pas la vocation messianique de l'État d'Israël, alors pourquoi vous le réclamez de nous les chrétiens? Ça ne tient pas debout, c'est un autre problème. Deuxièmement, et qu'est-ce qu'on fera du sort des minorités chrétiennes en pays arabe? Là aussi ça ne tient pas debout. L'histoire du Liban a montré qu'ils s'en foutent. Okay. C'est plus profond que ça. Il y a une alliance fondamentale entre Esaü et Ishmaël contre Israël. Il y a une alliance fondamentale entre le Vatican et la Ligue arabe contre Israël. C'est plus fondamental que cela. Et voilà comment je vous vais décrire cela. Et encore une fois, sans préjudice de l'honnêteté et de l'amitié des personnes individuelles ponctuelles, mais ce n'est pas eux qui font la rédemption de ce qu'ils nous ont fait. Le même jour où les rescapés de la moitié du monde, l'Occident, se réfugient en Palestine, comme ça s'appelait à l'époque, ce même jour, l'autre moitié du monde se jette sur eux dans la complaisance des hiérarchies. Ça, on n'avalera pas ça comme ça. Vous comprenez quel est le problème? Et or, il s'agit de l'Église, il ne s'agit pas de n'importe quelle diplomatie, il s'agit de la diplomatie vaticane, c'est-à-dire l'Église, c'est-à-dire ce qui s'est passé il y a 2000 ans. Et une alliance entre le Vatican et la Ligue arabe, ça ne passe pas en termes théologiques. Alors, ça veut dire qu'ils sont de mauvaise foi. Qu'on ne nous raconte pas des histoires. Je vais vous dire, l'expérience de l'âge, si j'ose dire, m'a appris une chose. C'est que l'inquiétude de solidarité des juifs entre eux porte sur les juifs avant de porter sur les valeurs juives. Les valeurs juives, nous avons notre Dieu au ciel, elles triompheront, nous savons. C'est les juifs qu'il faut sauver. Et quand les juifs sont en danger, alors toutes ces histoires théologiques, ça passe après. Or, c'est les juifs qui sont en danger dans l'attitude chrétienne. Beaucoup plus que les valeurs du judaïsme. Les valeurs du judaïsme, grâce à Dieu, la vérité triomphera. Mais les juifs, et c'est ça qui m'inquiète. Voilà, je vais faire la bande. Bien. Ken?
peut-être pas d'être un peu pessimiste quand même, et à l'égard des juifs, on s'est pas vu, à l'égard des chrétiens, mon analyse, mon expérience, mon père, c'est-à-dire, vous avez raison d'être méfiant. Je crois que, par exemple, les chrétiens, judaïs ou hébraïs, ils se donnent des arguments, et dans cette mesure-là, ils resteront un bloc. C'est pourquoi j'aurais tendance à dire que le passage du christianisme au judaïsme, à l'hébraïsme, à Israël, passe presque nécessairement à notre époque par l'athéisme. Et après, parce que les athées chrétiens, ce sont des athées qui disent notre Dieu ne connaît pas, ce Dieu triple, ce Dieu trine, ça ne les satisfait pas intellectuellement en même temps qu'il est confronté à un tas de valeurs qui leur paraît supérieur. Or, la découverte du fait d'Israël est essentielle, et c'est le seul chemin. Alors, on ne pouvait pas demander à un chrétien de reconnaître le fait d'Israël, qui est en réalité celui de l'antisémitisme, parce que le jour où il l'aura découvert, ça fait de fait qu'il n'est plus chrétien. Voilà pourquoi, quand vous disiez bonne foi, mauvaise foi, en réalité, c'est dans l'aspect chrétien, c'est qu'il lutte contre la foi et la bonne foi. Et mettez-vous à leur place, si je puis dire, ça n'est pas si
vrai. Non, ça je comprends.
Tandis que, pour revenir chez les Jésus tout à l'heure, la découverte du fait d'Israël, qui amène le fait du Dieu d'Israël, qui semble un Dieu fait pour l'athée, pour celui qui se pose un tas de questions insolubles de sûreté, sur lui, est tout à fait satisfaisante.
C'est très intéressant.
Je ne pouvais pas le demander à tout le monde, et je remarquerai en passant, je suis un élève assez assidu de vos séminaires pour l'avoir constaté à plusieurs reprises, chaque fois que votre sujet dérive sur ce plan-là, sur ce domaine, vous ne pouvez pas continuer sur votre sujet du cours, et c'est tout de suite, n'est-ce pas, une avalanche de questions, ce qui prouve qu'il y a tout de même interrogation sur l'identité, au fond. Ça vient un peu à votre autre thème de séminaire sur l'existentialisme et le judaïsme. C'est un argument, c'est une contribution. Ce qui prouve que s'il y a un tel afflux de questions, de réponses et de telles explications de votre part, comme si vous persuadez, vous persuadez, alors que nous savons bien que nous sommes tous, moi aussi y compris, mais enfin, je suis d'un autre côté tout de même, simplement prendre ce fait en considération de l'analyse que je prends dans ce séminaire.
Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Je suis tout à fait d'accord avec vous. J'ai un souci paroissial. Je pense à mes petits. Vous comprenez? Et une phrase, en tout cas, à la longue, ça nous a mis, un certain nombre d'éducateurs, à penser ceci, c'est que dans nos programmes d'enseignement, nous avons tendance beaucoup plus, de plus en plus à mettre l'accent sur l'histoire que sur la théologie. Je veux dire pourquoi. Ça va dans votre sens. Parce que, au fond, ce qu'il faut faire comprendre aux juifs et aux non-juifs, c'est l'histoire d'Israël. Et quand cette histoire est ressuscitée, alors après c'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus aisé. Je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair, mais enfin ça va un peu dans ce sens-là, et j'étais frappé par l'ignorance que les Juifs ont de leur histoire. C'est épouvantable. Alors c'est ça qu'il faut restituer. On ne leur apprend jamais. Non, okay. Oui, je veux dire, par exemple, à Mayanon, nous avons 4 cours d'histoire différents, sur 4 sujets différents, parallèles, et les élèves étudient 12 heures d'histoire par semaine, par rapport à 12 heures d'études juives traditionnelles. C'est énorme comme proportion, et peut-être que dans les années qui viennent, on va encore accentuer plus sur l'histoire, parce que c'est cela qui est important. Alors si nous pouvons arriver à faire comprendre, c'était la méthode de Judas Lévi, si vous vous rappelez bien, okay, expliquer aux goyim l'histoire d'Israël, alors ça les mènera à la vérité. Mais vous comprenez, la disputation proprement théologique, elle est bloquée par la foi chrétienne.
Okay. Il y a juste un petit mot qui est écrit quelque part et qui dit « Je suis la noire, je suis l'histoire ».
Où ?
Je peux vous montrer le texte.
La noire.
Mais répétez-vous.
« Je suis la noire, je suis l'histoire ».
La noire.
Pourquoi je sais pas, hein.
Oui, justement. C'est ça que je voulais savoir, mon cher Achiré. Pourquoi elle est Shrora ? Expliquez-nous, s'il vous plaît.
Voilà, je vais parler de ça très, très rapidement. Mais je suis la Loire, j'ai compris, chez Horan, okay, mais je suis l'histoire.
Peut-être, je sais. Je ne veux pas aller trop loin. Je veux dire, peut-être la Noire, c'est l'histoire, c'est ce que je veux dire, je ne sais pas. Hein.
Mmh. Mais... Bien, nous allons voir. En tout cas, ne pensez pas à la Noire, c'est la date. Vous me rappelez le verset, nous allons voir le Midrash. En tant que quoi je suis noir, en tant que quoi il y a Shechora ni Benahava. Je suis noir et je suis belle. Bien que noir d'apparence, noirci par le soleil qui m'a noirci, je suis belle. Ne regardez pas ma noirceur. Je sais que je suis noire, mais sachez que je suis belle. Nous allons voir ce verset.
C'est un peu comme dans Moïse, la femme de Moïse.
Noir, ça veut dire beau.
S'il vous plaît.
Attendez, je ne veux pas être injuste par la gauche qui est la droite.
C'est juste cette intervention pour, à l'époque, une histoire de l'arrondissement, le phénomène nationaliste que vous avez constaté. Je crois qu'il faut mettre en garde contre le sentiment de fausse sécurité. Qui s'est produit là-bas parce que c'est le troisième arrondissement, qui va se produire peut-être à Belleville, à Sarcelles, mais c'est limité, c'est une continuation du ghetto, pas une forme du ghetto, et c'est une fausse sécurité. Un jour, c'est même là qu'il sort du troisième de Sarcelles, et dans la vie active, eh bien, il sont soumis à tous les dangers.
Écoutez, vous permettez pour clore cette chose que je vous donne une petite indication sur ce qui se passe à la communauté juive de francophone de Montréal. Bon, c'est en plein développement extraordinairement vivant, etc. C'est une histoire à écrire et qui se fait sous nos yeux. Et donc, c'est en perpétuel changement. Ce que je dis est ponctuel, en fait. C'est une photographie en surplace, comment on dit ça, un instantané. L'arrivée des juifs sfaradim au Québec, étant donné qu'ils avaient en commun le français, c'était pas exactement le même français, mais enfin, c'était un français beaucoup plus glorieux, puisqu'il était le français de métropole appris au Maroc. Alors que le français du Québec, c'est quand même le français du 14e siècle, 15e, 16e siècle, le français des exilés, des filles du roi, vous connaissez toutes ces histoires. Eh bien, une espèce de symbiose foudroyante, parce qu'on a fait cause commune avec les francophones contre les anglophones. Et comme en plus, tous les juifs ashkénazes sont anglophones là-bas, imaginez la suite. Et puis, comme on était à Montréal pour parler en Israël à cause des problèmes syndicaux d'Ashdod, il n'y avait pas cette barrière de type nationaliste. Alors il y a eu une espèce de coup de foudre entre les Québécois et les Américains, c'est les Marocains de l'Amérique, et bien une espèce de coup de foudre, d'un mélange qui va jusqu'au niveau des mariages, etc. Et puis, tous ces mariages cassent l'un après l'autre, parce que c'était trop hâtif, c'était trop difficile, etc. Et alors, il se cherche une cuirasse. Vous comprenez? Et c'est très différent formellement. Mais comme a dit monsieur, c'est le même problème en France dans un autre style. Ça reviendra à la troisième génération. À la troisième, la quatrième génération, vous aurez le contre-coup. Par exemple, nous avons en Israël, dans les yeshivot, je ne sais pas si vous savez qu'il y a une quinzaine de yeshivot pour parler de Shuvah depuis quelques années en Israël.
En Amérique.
Oui, mais je parle surtout d'Israël, c'est spectaculaire, parce que des sabras devenir si torrents, si j'ose dire, faut le faire. Eh bien, nous avons des petits-fils et des arrière-petits-fils de bouddhistes qui redeviennent des yeshivistes 100%. 101% de l'argument, c'est trop. Je vais raconter par exemple une des blagues israéliennes par rapport à ce problème. C'est un nouveau Baal Tshuva venu du kibbutz. Alors imaginez la carrure, mais déjà avec Talet et Tfilin, okay, disant à son fils, en montrant son cousin qui est encore le malabar du kibbutz, fais attention, si tu apprends pas, tu vas devenir comme lui. Le contre-coup viendra plus tard. Mais en attendant, vous savez, je connais un peu mes juifs nord-africains, qui sont délicieusement naïfs, vous comprenez.
Exact.
Et dans ce problème.
Moi, mon mari dit toujours en faisant ça à son fils, si toi tu ne fais pas la religion, j'obligerai ton fils à la faire. Alors je me vengerai sur ton petit-fils.
Oui, on disait comme ça en judéo-arabe. Ton fils te refera la même chose. Ça veut dire, et moi je rigolerai. Bon, alors, si on revient...
Mais il existe une religion sans tchador.
Sans
tchador.
Ah oui, le voile
oui, israélien. Sans cela, n'est-ce pas? Il existe aussi une religion...
Dans le judaïsme?
Oui, pourquoi pas.
Bah oui, vous voyez bien que j'ai pas de barbe. Bien. Comme disait comme disait Michel, je préfère un juif sans barbe qu'une barbe sans juif. Bien. Oui, alors on revient à Nivao. Pour 5 minutes, parce que c'est...
C'est fini.
Est-ce qu'on ne peut pas faire...
En rapprochement avec la traversée de la mer Rouge, hein, si vous voulez, le scindement de l'unicité de Dieu en deux parties qui restent quand même, identiques, l'identité dans l'identité finalement, d'une certaine façon. Est-ce qu'on ne peut pas faire un rapprochement avec la tension, si vous voulez, le phénomène de tension qui est à l'origine de la traversée de la mer Rouge, de l'ouverture de la mer Rouge, si vous voulez, phénomène de tension, qui implique l'évolution, l'unicité étant le monde avant sa création, si vous voulez, le chiffre 2 étant la création, 3, l'évolution. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Non, je ne veux pas voir. Écoutez, sans aller dans les analyses formelles, vous permettez, parce qu'il est l'heure de reprendre ce problème de Anivaou pour un peu le compléter. Ici, le Gaon nous a donné une structure. Il y a l'unité qui se dévoile en deux commandements dans la réalité de cette révélation, de ce dévoilement. Okay? Le vous s'est dévoilé en lui, il a dit je. Okay? Et dans ce jeu, il y a je c'est moi et il n'y en a pas d'autre. Oui. Je suis Hachem Alokecha qui est sorti d'Égypte, Loi Elecha Elohim Acherim, et tu n'auras pas d'autre Dieu. Il y a donc la multiplicité qui est les 70, et entre cette unité et cette multiplicité, il y a ces deux grands clalim, Mitzvat Aseh, Mitzvat Lo Ta'aseh, etc. Le Gaon nous a montré que cette structure joue à tous les niveaux de notre connaissance du monde où nous sommes. C'est la multiplicité des nations, c'est la multiplicité des langues, c'est au niveau du Sanhedrin, comme on le verra encore peut-être. Dimanche, c'est au niveau du dévoilement de la Torah Shebaalpé et de la Torah Shebirtav, des Shivim Panim la Torah, au niveau de l'exégèse, au niveau du langage, etc. Je vais simplement reprendre pour conclure aujourd'hui sur ce problème de transcendance et immanence. C'est-à-dire, le vous renvoie à la transcendance. Et le vous renvoie à la relation du Créateur avec son monde au niveau de la nature. C'est-à-dire que Dieu a d'abord émané, si j'ose dire, les structures impersonnelles du monde. Et ensuite, dedans, il a émané son visage de personne, sans image. Okay? Vous vous rappelez de ce midrash que je vous ai une fois dit. Les formes du monothéisme juif disent que l'un, c'est l'autre. Or, il y a dans votre problème aujourd'hui, en particulier dans le structuralisme linguistique, cette difficulté, surtout en milieu juif, qu'on est sensible à la structure, mais uniquement dans son aspect impersonnel, et qu'on a assassiné, évacué le quelqu'un du Hani qui est ce vous. Je ne sais pas si j'étais suffisamment clair. Hein? Et j'ai eu à connaître des écrits de beaucoup de juifs, un peu dans ce milieu, à la fois freudien, lacanien, marxiste, etc. Et j'ai pas dit que c'était le vôtre, mais je dis de ce milieu qui se
préoccupe. C'est pas une insulte, non?
Non, pas du tout, c'est structuraliste. Et qui deviennent immanentéistes purs. Mais dans le sens inverse de Anivaou, qui deviennent impersonnalistes, je ne sais pas comment dire. En ce sens que, ébloui par la découverte de la cohérence des structures du langage, en particulier hébreu, le quelqu'un qui parle est complètement évacué. Le quelqu'un. Alors ils deviennent athées par l'étude para-pseudo-kabbaliste de l'hébreu. Je suis allé trop vite, mais j'ai lu trop de textes, ça m'a l'air très dangereusement répandu aujourd'hui. On découvre qu'il y a des. Du dit, du signifiant, du dire, du signifié, dans le langage, alors Dieu s'en va. C'est clair? Bon, ce problème était connu des kabbalistes il y a très longtemps, une minute. On étudie la parole du Hani pour comprendre le Hu, et pas l'inverse. On n'étudie pas les structures du Hu pour comprendre le Hani. Pourquoi? Parce qu'on risque de projeter l'impersonnel dans la personne, et c'est l'inverse qu'il faut faire. Je vais parler simplement, toutes les préfaces des grands kabbalistes commencent par dire comme ça. Assur l'istakel ba'agulim. C'est-à-dire, il est interdit de scruter les structures impersonnelles. On apprend la Torah qui a été parlée par quelqu'un et on conclut par analogie, on induit sur les structures impersonnelles. Parce que si on commence par les structures impersonnelles, on ne peut plus voir le quelqu'un. Est-ce que j'ai été suffisamment clair? Bon. Et alors, nous sommes occupés à essayer de réagir contre ce phénomène qui me semble inquiétant. La découverte de l'hébreu comme langue signifiante rend les gens athées. Le contraire du projet
du dévoilement kabbaliste. Voyez qu'est-ce qui se passe entre le Hani et vous. Je vais finir par une comparaison, si vous voulez, avec ce que j'avais appris jeune lycéen quand on apprenait la théorie de la lumière. Il y a deux théories de la lumière, la théorie de la propagation par onde et la théorie de l'émission de corpuscules. Et puis, ce que nos professeurs nous avaient appris, ça a dû se développer depuis. Enfin que les deux, c'est vrai, mais que lorsqu'on observe l'un, on ne peut plus observer l'autre. Une espèce de système, je ne sais pas si ça va jusque-là, je veux dire des choses très simples, une espèce de système clos de l'observateur et de l'observation. Lorsque je suis occupé à observer l'émission par onde, je ne vois pas l'émission de corpuscule. Lorsque je suis occupé à percevoir l'émission de corpuscule, je ne vois pas l'émission par onde. Et alors, je retranspose dans notre sujet, c'est que l'émission par onde, c'est la ligoulim, c'est les structures impersonnelles du monde, Lévi-Strauss. Okay? Et alors, je suis tellement aveuglé par l'évidence de cohérence de cette signification inouïe de la structure comme impersonnelle, que je ne vois pas le quelqu'un qui a donné du sens. Et je deviens athée à cause de la Torah du Hou. Parce que j'ai assassiné le Hani à cause du Hou. Vous comprenez? Et j'étais très fâché par cela. Je vous cite la préface de toutes les grandes éditions du Zohar, mais surtout la préface du Molcho au Sefer Esraïm, okay, qui dit ceci. Nous avons les Sphirot des Goulim, c'est-à-dire les structures impersonnelles du monde comme maison de l'homme, okay, et nous avons les Sphirot du Kavayosher. Les Sphirot des Goulim, c'est les Sphirot du Hou. Les Sphirot du Kavayosher, les Sphirot du Hani. Il est interdit d'étudier la Kabbalah des Sphirot du Hou. Il faut étudier la Kabbalah des Sphirot du Hani. Et quand on a appris la Kabbalah des Sphirot du Hani, on comprend celle du Hou, mais on est préservé. De ce dans une minute, je vous ai terminé. Je crois que c'est très exactement ce que les anciens théologiens du Moyen-Âge disaient. La philosophie doit être la servante de la théologie. C'est un langage. Il faut d'abord commencer par la théologie et après la philosophie. Mais si on commence par la philosophie, alors on n'arrivera jamais à la théologie. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on a été tellement convaincu du déterminisme naturel des conditionnements impersonnels jusque dans le langage, on ne pourra plus voir le quelqu'un qui parle. Alors que il faut commencer par l'inverse. On s'est trop occupé du Hani, on a oublié le Hou. Le Hou se venge. Mais je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là. Mais il faut bien faire attention à ça. Si vous voulez, demain je vous ferai photocopier sur ce point du Hani Bahou. Le
dimanche.
Oui, mais je pensais en calendrier hébraïque. Dimanche, nous voyons les choses. Je vous ferai photocopier une page du Rav Kook, le père, sur ce problème. Le Kavayosher et les Egoulim. Il me semble qu'il y a 5 ans, nous l'avons étudié, ou 6 ans. Enfin, ça.
Le colloque des intellectuels.
Le colloque des intellectuels, avant. Ça pourrait être repris. C'est ceci. Le Rav Kook nous montre que les structures impersonnelles du monde, c'est la création de Hachem. Hachem voit Elohim. Et il a d'abord émané les structures impersonnelles du monde, et le monde était chaos. Okay? Et puis, revenant dans ce monde impersonnel, il a émané les structures de la personne. Shabbat va une nafash, il devient nefesh. Okay? Et alors, la Torah que nous avons, c'est la Torah du Hani, Anochi Hashem Elokecha. Je voudrais citer un chidouch de quelqu'un qui est présent, alors je vais dire qui c'est de Simsovic, qui m'a beaucoup centré ce problème. La Torah commence par Bet, okay? Et les 10 commandements commencent par Aleph. Les 10 commandements commencent par Anochi, alors que la Torah commence par Bet. Bet, c'est Baït. La Torah nous raconte d'abord la construction de la maison. Et la maison, c'est le lieu impersonnel dans lequel le quelqu'un va habiter. Et alors, il y a deux possibilités. Ou bien Dieu a voulu créer une maison, et pas plus. Ça, c'est la vision impersonnelle du monde. Ça, c'est la vision uniquement structuraliste impersonnelle. Et alors, il faut expliquer comment il y a quelqu'un dans cette maison. Et on est non, on ne s'en sort pas. Okay? Alors, comment faire sortir l'homme des murs de la maison? Et ça, c'est toutes les théories de la culture générale contemporaine, depuis l'évolutionnisme jusqu'à tout le reste. On ne connaît que les murs de la maison impersonnelle, les structures du monde. Et puis, il faut expliquer comment l'homme est sorti des murs. Alors, on dit que c'est une moisissure des murs qui, finalement, voit à peu près ce que c'est que l'évolutionnisme dans ce sens-là. Alors que l'intention de la Torah, c'est l'inverse. Dieu a voulu créer le quelqu'un de l'homme. Et pour qu'il soit quelque part, il lui a fait une maison. Mais je m'excuse de la comparaison qui n'est pas cachée. Imaginez un escargot. Qu'est-ce qui est important, la coquille ou l'escargot? Alors, c'est ça notre dilemme. Hein? Et alors, les structures de la maison, c'est la création de Dieu, de sa volonté. C'est lui là-dedans aussi. en tant qu'impersonnel, c'est lui. Mais ce qui nous importe est le jeu, c'est pas le lui. Et nous savons que je est lui, lui est le jeu. Voilà, ça y est, c'est clair, alors en hébreu, Ani ou ? Mais c'est Ani qui est où ? Alors voilà quel est le tridouche. Comment dit le premier commandement ? Anochi, Hashem Elokecha, Hashem Otseti Chamim Bet. Parce que Bet, c'est Rabatim. Mm-hmm. C'est clair, c'est joli. Anochi, le Aleph me sort du Bet. Bet, c'est la détermination de la maison. Bet, c'est Bet Rabatim. Et c'était ça la religion égyptienne. Ils adoraient les conditionnements de la maison. L'Égypte, c'est la maison des esclaves. Parce que c'est les esclaves de la maison. Okay? Alors la loi du Anochi nous sort du Bet de Brigitte. Okay? Bet, Bait. Okay? Ça y est, c'est clair? Donc, alors on va s'arrêter sur ce bourrinouche. Et on se retrouve donc dans les jeux. Non, honnête comme ça. Mais voilà, c'est qui fait.
Je me file. Étant donné que c'est la dernière séance d'étude de texte, on fasse quand même un peu de texte.
C'est ça.
Alors, je vous propose, et il est maintenant bien 10h30 en principe, un peu plus, un peu moins, que jusqu'à midi, une passion du texte. Vous allez me dire rapidement, en tout cas, qui n'était pas là dans les séances précédentes, que j'ai à en tenir compte. Beaucoup. Je veux dire, depuis dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Maintenant. Sira, écoutez, je vous explique ce qui est arrivé. Lundi soir, nous avons une conférence de Joël qu'on relise en survol le commentaire du Gaon pour le terminer ce matin et avant nous tout de suite un ou deux midrashim sur le verset dont vous avez les fiches, c'est-à-dire Ishvar qui est fait monter le Shalaïr et il reste quelques-unes. Ça veut dire, c'est le souhait, plus que le souhait, l'exigence de l'Assemblée d'Israël dans la situation d'exil, qui se souvient de ce qu'a été le temps, qui est appelé en hébreu « Et Dodim », le temps de l'amour en direct, révélation au Sinaï, le souhait est que de nouveau ce temps se reproduise, parce qu'on l'a connu, on sait que c'est supérieur à toute autre expérience de substitut, fût-ce à travers la connaissance, à travers la médiation de connaissances, même si cette connaissance implique une expérience mystique. Vous rappelez les analyses que nous avons eues à ce sujet, chacun il me dit sur le pays qui m'embrasse, qui me baise littéralement des baisers de sa bouche, que ce soit la réalité concrète, et car à partir derrière lui, qui t'obéit d'odecha, parce que ton amour est pour moi meilleur que Yahin le vin. Avec toutes les connotations que le Midrash a signalées, la médiation par la connaissance, par ce substitut d'expérience que donne lui. L'ivresse, c'est pas le mot ici, mais il y a un mot français plus précis que l'ivresse, le... Hein? Non, l'ébriété, c'est péjoratif, péjoratif. C'est-à-dire qu'il faudra enlever le sens péjoratif d'ébriété qu'il y a dans l'ivresse et garder le sens d'enivrement. Très bien. Oui, très bien. Et il y a là, une indication très lucide de la tradition du Midrash, que quelle que soit la qualité et la profondeur de l'expérience mystique de substitution à l'expérience historique concrète de révélation, Israël sait que la vérité se trouve dans la révélation et non pas dans son substitut, fût-ce par la médiation de connaissances la plus claire intellectuellement, la plus profonde spirituellement. Là, nous avons parlé longuement et je reviens toujours pour vous donner comme référence Judas Lévi, le cousin. Les preuves dans le sens strict du terme, non pas démonstration, mais preuves par l'expérience, que ce en quoi nous croyons, espérons, que ce qui fait la foi d'Israël, ce qui fait sa connaissance du monde, qui a diffusé loin les réarches et manéchatovim, partout on a entendu qu'une bonne nouvelle est entendue, vient d'une expérience historique de révélation, expérimentale, et non pas seulement de ce qui est pour nous a posteriori un substitut par la mémoire et la connaissance, et ce qui peut être pour d'autres, une des deux voies qui ne se rencontrent pas, soit l'allée de l'homme vers Dieu, soit l'allée de Dieu vers l'homme, mais quand ça ne se rencontre pas. La rencontre piou, à la fois pira et pive, sa bouche à lui, sa bouche à elle, ça c'était Torah Shebirtav, Torah Shebealpé, révélation aussi. crois que là est le sens du thème qu'il y a enfermé dans les Midrashim sur ce deuxième verset. Et il y a plusieurs chapitres avec beaucoup de versets, mais c'est simplement un échantillonnage comme d'habitude. Et nous sommes arrivés hier, à travers ce thème, dans l'essentiel de cette révélation, le problème de transcendance et immanence. Vous rappelez en hébreu, Ani Vahu. Ani Vahu, c'est-à-dire Dieu se révèle comme vous, dans la transcendance absolue, vous c'est lui, on ne peut que faire allusion, lui, dans la transcendance absolue, à travers les structures qui font le monde comme demeure de l'homme, et ce qui nous renvoie à toute cette exploration des structures de la réalité, mais qui vont vers l'impersonnel. Et ça, c'est la révélation à travers « vous ». Mais nous savons que « vous », c'est un jeu, que ce « lui » est un jeu, que ce « vous », pas un jeu, j'ai le « lui », que ce « vous » est un « anochi », que ce « vous » est un « quelqu'un », que ce « vous » est un « ani ». Là, c'est le niveau de l'immanence. Dans l'immanent, Dieu se dévoile comme Ani, à qui on peut dire toi, à qui on peut dire tu, à qui on peut dire Ata. Mais dans la transcendance, il se dévoile comme un vous inaccessible, de qui on ne peut que faire allusion à la troisième personne, lui. Et dans la cohérence du monothéisme absolu de l'enseignement biblique, de la révélation biblique, que l'un, c'est l'autre. Ce qui est au-delà des prises de la raison humaine. Mais nous avons eu expérience. Et c'est pourquoi, lorsque nous dirons que cette foi d'unicité de Dieu, que lui, c'est le jeu, qu'un jeu a dit c'est moi lui, et que lui s'est révélé en tant que jeu, bon, je reprends la catégorie philosophique, transcendance et immanence, eh bien, ce n'est pas l'évidence d'une démonstration, c'est l'évidence d'une preuve, c'est-à-dire d'une expérience. Il est arrivé que nous ayons eu cet événement historique, et nous ne pouvons pas l'oublier. Alors, la Shulamit, Knesset Israël, en fiançailles d'après le mariage, c'est pas divorce, c'est fiançailles d'après le mariage, l'exil se rappelle de cela qui a eu lieu et le proclame. Ishakeni minishikutpiu. Voilà tout le chant d'amour d'elle pour lui, s'adressant à toutes les autres, les Benot Yerushalayim, les autres sociétés humaines, qui se définissent de façon plus ou moins proche, plus ou moins lointaine, plus ou moins ingrate, plus ou moins reconnaissante, comme les filles de Jérusalem. Comme les filles de Jérusalem, dans le langage du Shirachim, ce n'est pas les communautés juives, c'est les autres nations qui parlent du Dieu de Jérusalem. On dit les filiales. Okay? Et alors, voilà le souhait. Ishakeni minifikopi. Que recommence l'événement de proximité, de dévoilement face à face, bouche à bouche, dans le problème de le contenu de ce dévoilement que nous appelons donc à partir de maintenant la Torah, à ces deux niveaux, Torah Shebetar, Torah Shebe'alpé, c'est la révélation en direct, si j'ose. Donc je crois que cela nous permet d'avoir, grâce à ce cadrage du commentaire de Goldwina sur les sources du Midrash, d'avoir l'essentiel de cette préoccupation du Midrash, qui est un thème très important de la spécificité de la tradition. L'approche par la connaissance intellectuelle est très importante pour élucider de quoi s'agit-il dans le problème de cette expérience religieuse, Dieu se révélant à l'homme, l'homme se révélant à Dieu. Il s'agit d'un événement historique et d'une parole qui a été dite et entendue. Et la certitude vient de ce que cela a déjà eu lieu, quelque chose de parallèle. Toutes les prières sont adressées à celui qui a délivré Israël de l'Égypte, à cette expérience historique qui a déjà eu lieu et qui est le fondement de cette certitude que donc cela aura de nouveau lieu. La référence à la sortie d'Égypte comme certitude dans la réalité qui fonde l'espérance que de la délivrance future. Nous savons que nous pouvons être sauvés parce que nous l'avons déjà été. Et ce n'est pas le résultat, encore une fois, d'une hypothèse intellectuelle la plus évidente soit-elle, ce n'est pas non plus le résultat d'une exigence affective la plus authentique soit-elle. C'est au-delà. Et de l'intelligence et de l'affectivité, c'est la connaissance par l'expérience de l'événement. Je pense que c'est clair. Alors, bien entendu, secondement, plus exactement, il y a une élucidation intellectuelle de cette foi d'Israël basée sur l'expérience, il y a une ferveur affective qu'elle entraîne, tout cela est authentique et est vrai, mais secondement, il y a d'abord la référence de de ce dont la Torah parle dans son récit historique et qui est le fondement de la foi. C'est Judalevi. Le fondement de la foi, c'est l'expérience historique que nous avons eue, et après, alors il y a évidence intellectuelle. On dirait cela théologie rationaliste, si vous voulez, mais ce fondement, ou évidence par expérience mystique de la ferveur de l'affectivité religieuse authentique, mais secondement. Jamais la tradition juive n'a commencé par là. Jamais la tradition juive n'a cherché à découvrir l'évidence de Dieu par un raisonnement ou par une émotion. C'est second. Et ça n'a été authentique que lorsque c'est second de la référence à l'événement historique qui a eu lieu. Alors, pour nous, c'est quoi? Nous ne sommes pas les contemporains de cette expérience historique. Pour nous, c'est l'histoire du peuple juif. L'histoire du peuple juif est la preuve. Et secondement, il y a connaissance par la raison, l'intelligence, tout ce que vous voudrez, expérience par la foi et la vie. Mais c'est second. Ça, c'est Judas. Et l'éclairage que le baron nous donne de cela. Nous, simplement terminer cette brève introduction par une analyse très brève. Il y a une différence entre la preuve et la démonstration. Lorsque, par exemple, j'ai souvent l'occasion de parler, lorsque, par exemple, on parle de la preuve de l'existence de Dieu, il y a une impropriété de langage. En réalité, on veut désigner des démonstrations. Ce qu'on appelle les preuves philosophiques ou théologiques, théologie-philosophique, de l'existence de Dieu sont en réalité des démonstrations. On prend un postulat d'évidence, un axiome, on raisonne et on déduit, on conclut donc Dieu existe. Mais c'est un raisonnement, c'est une démonstration. La preuve, c'est l'expérience. Et je crois qu'il faut dire que il n'y a que dans la tradition juive qu'il y a une preuve de l'existence de Dieu. Partout ailleurs, il y a des démonstrations. Et alors, ce n'est que par hasard que les démonstrations sont vraies. Enfin, par hasard, j'ai un peu exagéré. Il arrive que cette démonstration dise la vérité, mais parce qu'elle s'adresse à une conscience déjà informée par la conviction de la preuve. Et si elle ne s'adresse pas à une conscience déjà informée par la conviction de la preuve, le raisonnement reste, quelle que soit son évidence intellectuelle, reste inefficace. Jamais aucune démonstration de l'existence de Dieu, qu'on appelle faussement preuve, n'a jamais mis quelqu'un, si nous étions en contexte chrétien, je dirais, mis à genoux quelqu'un, en contexte juif, l'a mené à mettre les tzvilim, quelque chose de ça. Mais il peut y avoir coïncidence. Lorsque, par exemple, une de ces démonstrations de l'existence de Dieu nous démontre donc le monde à un créateur, c'est vrai ce qu'elle dit. Mais cela ne peut être convaincant que pour celui qui aura admis le postulat de départ de cette démonstration. Et jamais une tradition ne confie son message à l'aléatoire des tempéraments intellectuels, à l'arbitraire de cet aléa du tempérament intellectuel. Une tradition part d'un événement concret de Ishakeni Mineshikot Piu. Ken ?
Juste un petit détail. Je pense que l'Occident, la pensée occidentale, enfin celle qu'on appelle occidentale, a pour pierre angulaire Descartes et « je pense donc je suis ». N'est-ce pas, c'est une chose connue. Mais je crois que la confiance là qui est accordée à la pensée, c'est-à-dire le saut qu'on fait entre la pensée et le réel, on peut mettre en évidence que c'est un peu une supercherie de la façon suivante. C'est-à-dire, ce que Descartes a vraiment dit, je peux le dire autrement, et j'espère qu'on va voir ce que ça change. Descartes a dit, je pense que je pense, donc je pense que je suis. Et je crois que c'est un peu difficile, mais si on réfléchit à cette formulation, je crois qu'on peut comprendre des choses sur ce saut qui est fait un peu comme un tour de prestidigitation ou comme une escroquerie entre la pensée et le réel.
Et si je me souviens bien, Kant a fait cette objection. Kant a fait cette objection à Descartes. Oui, c'est vrai. Vous êtes en rencontre. Bien. Je reviens à vos problèmes, et c'est surtout la méthode de Judas Lévi. Je vous invite à relire les premiers chapitres où il l'expose de façon très claire en disant que la théologie intellectualiste se base sur la méthode du Hekesh, du raisonnement.